La Bonne Graine, un podcast entièrement réalisé à la main. Bonjour, bienvenue sur le podcast de La Bonne Graine, l'école d'ameublement de Paris. Je suis Anne Thévenie, directrice communication et développement et formatrice en histoire des styles à l'école, et je suis aujourd'hui en compagnie de trois personnes. Hakim Kasmi, grand reporter à France Culture.
Bonjour Anne.
Suzanne Antaille, conseillère d'éducation à La Bonne Graine.
Bonjour.
Et Sophie Coudreuse, notre DRH à temps partagé qui nous a rejoint à la rentrée.
Bonjour Anne et bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous allons aborder un sujet très vaste, on va essayer d'être synthétique, celui du handicap à l'école et au travail. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien, Suzanne et Hakim, que vous me présentiez un petit peu votre parcours scolaire et professionnel et comment vous en êtes arrivés à vos emplois aujourd'hui, comment on devient conseillère d'éducation, pourquoi on devient conseillère d'éducation et pourquoi on devient grand reporter.
Alors moi, mon handicap, je l'ai découvert à la fin de ma terminale. Je me destinais pas forcément à des métiers de l'apprentissage ou même les formations que j'ai suivies. Ça a été un peu par la force des choses. Moi, à la base, je voulais être musicienne, sauf que j'ai vite compris que je pouvais plus lire les partitions à l'orchestre. Et donc, j'ai décidé d'apprendre, de suivre des formations sur les métiers de la vision. Donc, à la base, je suis opticienne, orthoptiste et optométriste, donc c'est tout ce qui est compensation du handicap visuel ou même de la prescription de lunettes. Voilà, et j'ai connu La Bonne Graine parce que j'ai connu un élève qui est devenu professeur ici, et j'ai été beaucoup sur les salons, j'ai rencontré les membres de l'équipe, et quand une place s'est libérée en tant que conseillère d'éducation, j'étais déjà sensible au métier de l'administration et j'ai été sensible.
Naturellement attirée dans le cercle de l'école.
Par l'école.
Et du coup, Hakim, comment vous êtes devenu grand reporter? D'où vient cette vocation, cette envie?
Alors moi déjà, la radio, ça a toujours été une très très grande passion depuis que je suis petit. Il faut dire aussi, quand on ne voit pas, quand on est aveugle, en fait, on a une relation particulière avec la radio, parce que c'est vraiment pour nous vraiment l'outil qui nous permet de nous informer. Moi, je suis né en plus en 1980. Alors, ça paraît un peu loin aujourd'hui, mais il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Oui. Voilà, pour ma génération, moi, quand j'étais adolescent, quand j'avais 15 ans dans les années 90, ou même 10 ans, la seule manière de s'informer, à part la presse écrite ou lire des livres, c'était la radio. Donc déjà, j'ai toujours été extrêmement attaché à la radio. Et puis à la maison, on écoutait aussi beaucoup la radio chez moi. Mon papa écoutait beaucoup la radio, beaucoup l'actualité aussi. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, en fait, ça a toujours été entre guillemets un réflexe. Et forcément, voilà, puis bon, j'ai toujours aimé la voix, j'ai toujours aimé faire un peu de théâtre, voilà, j'ai toujours aimé un peu, entre guillemets, faire le show un petit peu dans la famille, comme on disait, voilà, les gens m'ont tous toujours dit en rigolant, faut que tu fasses de la radio plus tard, aux comédiens, parce que voilà, t'aimes bien faire les imitations, t'aimes bien mettre l'ambiance dans la famille. Donc moi, c'est parti de là, et puis j'aime aussi beaucoup le sport, en particulier le football, donc j'ai vraiment grandi en écoutant les matchs de football à la radio. Et mes idoles, quand j'étais petit, c'était vraiment les journées sportifs, en fait, qui étaient mes idoles et qui m'ont vraiment donné envie, parce qu'à la radio, on ne raconte pas les choses de la même manière. Et surtout, à la radio, on décrit beaucoup ce qu'on ne fait pas à la télévision. C'est aussi pour ça que quand on est aveugle, on aime beaucoup aussi la radio pour s'informer ou pour suivre ses passions, comme je le faisais en particulier avec le foot, mais aussi beaucoup d'autres choses, parce que j'ai toujours été féru d'actualité. Quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, je prenais mon petit magnétophone à cassette. Alors ça part loin, parce que maintenant on a des MP3 maintenant. Et voilà, j'aimais faire des reportages. Quand on partait en voyage scolaire, par exemple, voilà, ça m'a toujours plu. Et des fois, je simulais des journaux d'actualité. Je m'enregistrais dans ma chambre en créant un petit journal, comme si j'étais journaliste à la télévision, à la radio, comme si j'animais le 20h. Mais après, quand on ne le voit pas, il y a toujours, dans la vie, on a des rêves, on a une volonté, on a beaucoup de choses, mais après, les réaliser, c'est autre chose. Et c'est vrai que souvent, on me disait, comme tu ne vois pas, journaliste, c'est compliqué, parce qu'il faut voir pour prendre une caméra, il faut voir pour se déplacer, il faut être extrêmement bon à l'école, il faut avoir 18 partout. Bon, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas forcément un très très bon élève, parce que voilà, bon, on a tous un rythme différent, en fait. J'étais pas en guerre contre l'école, mais bon, j'étais pas un garçon scolaire, et du coup, au début de ma scolarité, c'était compliqué, parce que mes enseignants me disaient souvent que j'étais pas un bon élève, que je ne ferais jamais rien de ma vie. Enfin, c'était un peu compliqué. Quand j'étais à l'Institut national des jeunes aveugles au début au collège. Mais après, voilà, il y a eu un déclic quand je suis arrivé au lycée. Et puis, voilà, j'ai demandé à partir en ce qu'on appelle maintenant l'inclusion, donc dans un lycée normal, pour poursuivre ma scolarité. Et là, même si c'était compliqué au début, parce que j'avais des profs qui n'étaient pas toujours très sympathiques, parce qu'ils ne voulaient pas forcément avoir un élève aveugle dans leur classe. Mais c'était un déclic parce que quand vous êtes au lycée, on n'est plus dans le scolaire, on n'est plus dans le bachotage, on vous demande de la réflexion. Et pour moi, c'était un véritable déclic parce que là, je suis passé entre guillemets de l'élève extrêmement moyen au très bon élève, voire bon élève. Voilà, j'avais les félicitations, les encouragements. Alors qu'en fait, toute ma vie, je n'aurais jamais mon bac. Voilà, c'est pour vous dire que. Voilà. Et bon, on en parlera plus tard, mais aujourd'hui, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on m'a souvent dit que j'étais pas bon élève, et aujourd'hui, je suis journaliste à France Culture. Alors, je pense qu'en termes de, voilà, d'intellect, on peut mieux faire. Et en plus, je suis journaliste éducation.
Voilà, c'est une belle bouclée de nez.
Voilà, et aujourd'hui, c'est moi qui interroge les différents ministres, hommes et femmes, de l'éducation, donc ça me fait nez en rigolant. Ça me fait sourire, alors que c'est pas le tout prémédité. Hein. Et donc, bah, après, bah, voilà, bah, je me suis battu déjà pour avoir mon bac. Parce que quand on ne voit pas, encore plus sur l'intégration, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. On a des journées beaucoup plus longues. Moi, à l'époque, le numérique n'était pas encore très développé. Mmh. Donc, je passais mes soirées avec des lectrices et des lecteurs bénévoles à devoir recopier des polycopiés où il y avait les cours, les exercices. Parce que même si l'Institut des jeunes aveugles me transcrivait mes livres en braille, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Donc, le livre, on ne l'a pas au bout de deux jours. Hein. Le livre, je l'avais en général au bout d'un mois ou deux. Sauf qu'en attendant, bah, le cours, voilà, la page 42 qu'on étudiait, on l'a déjà passée. Mmh. Donc, en plus, bah, pour compenser, il y avait ce gros travail après les cours. En plus, en terminale, on a 35 heures de cours par semaine. Là, il fallait ajouter le soir le travail avec les lecteurs jusqu'à 20h, 21h. Et ensuite, c'est qu'à partir de 21h, après manger, que je pouvais commencer enfin à faire mes devoirs pour le lendemain. Donc, c'était assez sportif. Voilà. C'est comme ça, malheureusement, oui. Bah, quand on a un handicap, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut avec les copains quand on est adolescent. Parce qu'il y a du travail en plus. Après, j'ai eu mon bac et moi, j'ai toujours fonctionné dans la vie par étapes. Parce que ça me paraissait tellement élitiste, ce métier de journaliste, que j'ai dit bon. Déjà, Kim, t'es handicapé, il faut avoir ton bac, comme ça au moins tu pourras faire quelque chose de ta vie. Parce que quand on est handicapé, le fait de ne pas avoir de diplôme, c'est une véritable angoisse qui nous poursuit toute la vie, et le fait de ne pas pouvoir travailler aussi. Et on y pense beaucoup quand on est adolescent, voilà, on a peur de ça. Après, bah, j'ai donc fait une fac d'histoire, parce qu'on m'a dit, voilà, pour être journaliste, ce qui est bien, c'est de faire Sciences Po ou les études d'histoire, notamment par rapport à la synthèse, parce qu'il faut être très synthétique. Là, pareil, c'était un véritable combat, parce qu'en histoire, il faut beaucoup lire. Voilà, c'est... Et bon, bah, quand on ne voit pas, c'est compliqué d'accéder à toute la documentation. Et puis ça prenait du temps parce qu'à l'époque on m'enregistrait mes sur les cassettes. Donc on les enregistrait, les écoutait. Bon, en j'avais des super camarades à la fac qui m'ont beaucoup aidé, qui me prêtaient leurs notes, des bouquins qu'ils lisaient. Mais voilà, c'était aussi un combat pendant 3 ans. J'ai eu ma licence, voilà, en 3 ans. Et ensuite, bah, j'ai passé les concours d'école de journalisme. Bah, là aussi, pas bah, grosse pression parce que, entre guillemets, c'était mon rêve. Donc j'avais peur de. Oui. Voilà, je me disais, bah, si je fais pas journaliste, qu'est-ce que je ferai plus tard, quoi.
Oui, il y avait un enjeu énorme.
Un enjeu énorme. Alors bon, enfin licence, j'ai d'abord passé les concours une première fois, mais sans véritablement préparer, parce que j'étais vraiment concentré sur ma licence, voilà. Ouais. Donc bon, je ne les ai pas eu, mais déjà ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire ça, et j'ai vraiment compris là où j'avais progressé. Et puis aussi ce qui m'a motivé en disant que c'était possible, c'est qu'en terminale, parce qu'à l'époque, enfin c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y avait notamment l'unité de Tours qui permettait d'accéder aux études de journalisme post-bac, à niveau bac plus 2. Donc j'étais arrivé sous admissible déjà à Tours. Donc je lui dis, bon, c'est pas mal, là, qui me tend en terminale, t'as déjà franchi plusieurs étapes, t'es arrivé sous admissible, à l'UVT qui est en plus une école reconnue, c'est qu'entre guillemets, il y a un potentiel, il faut en travailler, mais il y a du potentiel. Donc c'est ce qui m'a aussi conforté pendant ma licence et motivé pour poursuivre. Et donc bah, ensuite, j'ai repassé l'IPJ, mais en alternance, parce que le concours pour l'alternance était en milieu d'année à l'époque, en février, donc avant les concours pour la formation initiale que je comptais passer, quand j'étais en master en histoire. Voilà, je m'étais exprès inscrit en master en histoire, parce que je m'étais dit, c'est important d'avoir un équilibre. Oui. Parce que vous savez, si on fait que préparer les concours seul dans sa chambre, ben voilà, après on peut rester isolé, on peut être démotivé. Oui. Donc pour avoir, tout simplement, pour se lever le matin, avoir un but. Donc j'ai été inscrit en master en histoire, j'avais été accepté. Et donc bah, du coup, j'ai pas fini mon master en histoire parce qu'en fait, entre-temps, bah, j'ai été accepté à l'IPJ. Tout d'abord pour intégrer la formation en apprentissage, donc j'ai été accepté à l'IPJ. Mais ensuite, il fallait passer un grand oral avec Radio France. Et là, on joue toute sa vie parce que vous arrivez, il y a un jury, c'est assez impressionnant parce que la plupart des membres du jury sont des voix que vous écoutez depuis des années.
Oui.
Donc voilà, j'étais un peu l'enfant dans le magasin de jouets, si vous voulez, à Noël.
C'est intimidant et en même temps, c'est génial, quoi.
Voilà, donc c'est très intimidant et en même temps, je joue sa vie. Voilà, parce que en plus, Radio France, c'était mon rêve d'enfant. Voilà, j'ai pas eu l'occasion d'y faire des stages avant parce que n'ayant pas d'amis ou de proches de la famille qui étaient dans ce monde-là, voilà, j'ai pas eu cette chance-là de faire des stages dans des grands médias en presse écrite, en radio, en télévision. Mais j'avais la passion et la connaissance du monde de l'entreprise et de Radio France, donc ça m'a beaucoup aidé pour l'oral. J'ai vraiment tout donné, voilà. Et donc bah, j'ai été intégré malgré mon handicap, qui au début aurait pu être un frein dans la mesure où je n'ai pas le permis. Et quand on est journaliste, il faut avoir le permis.
D'accord.
Voilà. Et donc bah, ensuite j'ai fait mon apprentissage en 2 ans. Et quand on est à Radio France, bah, comme c'est France Bleu, France Inter, France Info, France Culture, il y a différentes rédactions. Il faut savoir s'adapter à toutes ces rédactions, parce que la ligne éditoriale n'est pas la même. Donc c'est pour ça que durant mon parcours, j'ai travaillé dans différentes rédactions, afin d'être, entre guillemets, polyvalent comme tout le monde. Hein. Voilà, on m'a dit, écoute, Hakim, oui, on sait que tu vois pas, mais tu iras à France Bleu en région comme tout le monde. J'ai dit, ok, je veux bien la France Bleu, pas de souci. Mais je vais dans une grande ville, parce que comme je ne conduis pas, voilà, il faut au moins que je puisse prendre le transport en commun pour me déplacer pour aller en reportage, hein, tout bêtement.
Il faut quand même qu'il y ait une adaptation qui soit faite et une prise en compte des capacités des uns et des autres, de chacun, pour faire la tâche au mieux.
Exactement. Et je ne vous cache pas que durant ton parcours à Radio France, ces 3 mois à Bordeaux, parce que j'étais à France Bleu Gironde, ont été la période la plus difficile pour moi. Voilà, parce que du jour au lendemain, on perd tous ses repères. Voilà, moi, j'ai toujours eu la chance de grandir à Paris, de faire mes études à Paris. Du jour au lendemain, on part à 600 km de chez soi et on est seul. Alors bon, même si je suis un garçon plutôt autonome, je voyage beaucoup, c'est pas pareil de partir en vacances en week-end que d'être là pendant 3 mois, seul dans son petit appartement, de devoir gérer son ménage, ses courses, on connaît pas la ville, faire attention, voilà, avec les tramways, c'est toujours compliqué, un peu dangereux quand on voit pas, on perd tous ses repères, et j'avoue que ça a été très dur au début. Et je me souviens qu'à l'époque, ma mère m'avait dit, quand elle m'avait aidé à m'installer le week-end avant de commencer mon contrat à France Bleu Gironde, tu verras, ce sera très difficile, mais ça t'aidera pour plus tard, voilà. Et c'est vrai que sur le coup, voilà, j'étais extrêmement triste et paniqué. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, mes amis de France Bleu Gironde, beaucoup de mes anciens collègues et chefs sont devenus de très bons amis aujourd'hui. Et c'est vrai que je sais que ça a beaucoup joué quand après j'ai été embauché en CDI à Radio France parce qu'effectivement, ils ont pu voir que j'étais polyvalent. Parce que contrairement à ce que peuvent penser des fois les gens, parce que vous savez, quand on a un handicap, les gens sont parfois durs. Vous dites, ah, toi, tu as été embauché parce que tu marquais des quotas. Ça, c'est quelque chose que j'ai malheureusement entendu. Et les gens ne comprennent pas qu'au contraire, nous, quand on est embauché, au contraire, on doit être encore meilleur que les autres. Et même quand on est en CDI, on doit toujours être bon. Voilà. Oui. Parce que si un jour on est moins bon, je vous l'avais dit, parce qu'il ne voit pas, parce qu'il a un handicap. Les gens sont beaucoup moins indulgents. Et ça, c'est valable dans partout dans le monde du travail. Hein. C'est pas que dans mon milieu à moi. Hein. Et c'est aussi pour ça que pour nous, c'est toujours plus fatigant parce qu'on doit faire beaucoup d'efforts. Et en plus, c'est toujours le regard des autres qui dure, qui n'est pas évident des fois à supporter, même quand on a une longue carrière. Et donc, après ma formation, j'ai fait des CDD, dans les différentes antennes de Radio France. Et ensuite, j'ai été embauché en CDI à France Culture, où j'ai pu réaliser mon rêve d'être à Radio France. Et pour moi, aujourd'hui encore, même au bout de 15 ans d'ancienneté, je suis toujours comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets à Noël, en fait. Voilà. Même si il y a des jours aussi difficiles, parce qu'on travaille beaucoup. On a des journées de 11-12 heures. On a un métier qui est stressant, particulièrement en ce moment, avec l'actualité qui est malheureusement très triste et aussi anxiogène, depuis le Covid, avec malheureusement les différents conflits dans le monde en ce moment. Et ça nous pèse aussi, on reste des humains. Vous savez, nous, dans notre métier, ce qui est compliqué, c'est qu'on doit être des éponges. Oui. On a beau des éponges, on a beau des professionnels, ça nous touche aussi. Et sans compter que quand on ne le voit pas, on doit faire aussi beaucoup plus d'efforts. Et en plus, on fait un métier qui est stressant dans la mesure où nous, ça va vite. Voilà, comme je suis à l'Elysée ou à Matignon, quand la conférence de presse, elle finit à midi, et que je dois faire un direct à minuit dans le journal, et on s'en fiche que je ne vois pas l'auditeur, et ce n'est pas son problème, lui. Oui. Donc moi, je dois faire en 10 minutes, en 15 minutes, monter mes sons, apprendre par cœur mon texte, les noms, les chiffres, et être fluide à la radio. Oui. Voilà. Je ne vais pas dire, je ne vois pas, donc c'est compliqué pour moi. Et c'est tout ça, en fait, qui prend du temps aussi, et qui fait qu'après, on devient un professionnel à part entière.
Sophie, du coup, je t'ai présentée comme DRH à temps partagé, mais si tu nous rejoins aujourd'hui, certes, en tant que DRH à temps partagé, tu participes aussi à ce podcast parce que tu as travaillé avec Hakim pendant longtemps à Radio France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton poste et de comment tu as pu, avec tes sensibilités personnelles et tes outils de DRH, suivre les personnes en situation de handicap pour les aider à s'épanouir dans leur poste?
Oui, tout à fait. Merci Anne et merci encore Hakim d'être avec nous et avec Suzanne aujourd'hui. Donc avec Hakim, on s'est rencontrés à Radio France parce qu'avant d'être DRH à temps partagé ici à La Bonne Graine, j'ai travaillé pendant 26 ans, moi c'est pas 15 ans, 26 ans à Radio France, à la fois comme DRH et comme directrice du département diversité et inclusion. Et j'ai notamment piloté la mission handicap de Radio France. Et nous avons tissé avec Hakim à la fois des liens professionnels et amicaux. Et notamment, on a beaucoup travaillé ensemble, à la fois sur la sensibilisation justement des équipes autour des situations de handicap au sein de l'entreprise, des salariés, et sur les aménagements de postes. Et c'est vrai que c'est très en lien avec le thème de la semaine du handicap de cette année, qui parle de tout ce que les nouvelles technologies peuvent apporter pour permettre des meilleurs aménagements de postes, notamment pour les personnes en situation de handicap visuel. Je voudrais juste, avant de revenir, mais c'est toujours en lien avec les aménagements de poste, Hakim, tu as parlé du permis de conduire. Moi, quand j'étais à Radio France, c'est vrai que quand on recrute des alternants, que ce soit en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation dans une entreprise comme Radio France, il est demandé d'avoir le permis de conduire pour pouvoir partir en reportage. Et donc, ça faisait partie d'un des critères, d'un des prérequis. Moi, quand je m'occupais de la mission handicap, j'ai demandé effectivement cette exigence ne soit pas inscrite exactement pour les personnes en situation de handicap, que ce soit visuel ou ça peut être sur des maladies neurologiques qui font qu'on peut avoir des problèmes aussi au niveau des jambes, des muscles, etc. Et pour le coup, la compensation, parce que quand on parle d'aménagement de poste, on parle de compensation pour permettre l'équité, c'est-à-dire pour permettre aux personnes qui ont des situations de handicap d'avoir des compensations pour travailler dans des bonnes conditions. Et donc, l'aménagement, là, c'est que la mission handicap prend en charge les taxis le coût des taxis pour permettre justement aux personnes, aux étudiants en alternance journalistes qui ont besoin d'aller sur des lieux de reportage, bah, du coup d'avoir leur transport et leur déplacement qui sont financés. Donc on le voit, c'est vraiment intéressant parce que c'était un petit peu une, comment dire, une incongruité et quelque chose qui était complètement décalé d'exiger ça.
Oui, ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent en fait.
Voilà, exactement.
Ça nous a changé la vie, hein, pardon, mais... Bah, en plus, moi qui fais beaucoup de déplacements, aussi bien en France qu'à l'étranger, bah, c'est plus une barrière. Des fois, on sait qu'on peut prendre le taxi, parce que même si c'est en banlieue, et même pour l'antenne, ça apporte beaucoup de choses, parce que du coup, au lieu d'avoir du son téléphone, enregistré au téléphone, on aura du vrai son propre.
Oui.
Et même après, pour le réseau, pour les contacts, le fait de voir les gens en vrai, c'est aussi bien pour moi, parce que ça me fait pas mal d'avoir un réseau, et c'est aussi bien pour l'antenne, parce que au lieu d'avoir un reportage avec du son téléphone, on a du vrai son en propre. Et on peut aussi citer, Sophie, aussi ce que vous avez mis en place qui est extraordinaire, c'est d'avoir un guide.
Ouais.
Parce que moi, j'ai beaucoup, quand j'étais en grand reporter, j'ai beaucoup en France et surtout à l'étranger. Et quand on barbe au bout du monde, dans des pays parfois compliqués, hein, comme par exemple, ça m'est arrivé d'aller en Iran ou en Chine, ou la Chine, quand on est journaliste, c'est pas toujours très, très évident. Et ou au Brésil, où des fois, quand on partait à Rio, dans les favelas, même au niveau de la sécurité, c'est pas toujours très safe. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse vous accompagner. Et ça aussi, ça m'a aussi beaucoup changé la vie. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est la mission Handicap qui finance le guide. Comme ça, du coup, même pour votre manager, entre guillemets, il n'y a pas un surcoût. Parce que la volonté de la DRH de Radio France, c'était aussi ça. C'était de dire, on ne veut pas qu'un journaliste handicapé, même en CDI, ne puisse pas partir comme ses confrères, parce qu'on va lui répondre, oui, mais ça coûte deux fois plus cher quand tu vas en reportage qu'un autre. Et c'était ça la volonté à l'époque de la DRH aussi, pour pas qu'il y ait de discrimination par rapport à l'exercice de notre métier, et par rapport au reportage, notamment à l'étranger. Comme ça, du coup, c'est complètement transparent. Je ne coûte pas plus cher à France Culture en allant
C'est important, ça.
C'est important.
Parce qu'en fait, c'est ce que vous avez soulevé, Hakim, c'est que souvent, et c'est encore des choses qu'on entend beaucoup, et je pense que Suzanne, tu as subi aussi ce genre de remarques, malheureusement, on a souvent l'impression que les personnes handicapées pour qui on fait des aménagements, pour qui on fait des compensations, ont un espèce de traitement de faveur, genre oui, mais toi, on t'a mis en place quelque chose. En fait, non. C'est ce que tu disais, Sophie, hein. C'est qu'on va niveler, en fait, les conditions de travail de tout le monde. C'est que ce qui peut être hyper simple pour quelqu'un doit être rendu aussi simple pour la personne pour qui il y a un accès qui est peut-être plus difficile. C'est pas un traitement de faveur, c'est juste mettre tout le monde dans les mêmes conditions de travail. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas de la discrimination positive, c'est un traitement équitable et éthique.
Et ça change la vie, surtout au niveau de la fatigabilité en fin de journée, parce que dans mes différents emplois précédents, je me sentais obligée de compenser ce que je n'étais pas capable de faire par autre chose, ou de devoir donner le change. Et sauf que là, le fait d'avoir un aménagement de poste, la vie est beaucoup plus simple, et en fin de journée, on est aussi fatigué que ses collègues, et pas plus fatigué.
Oui. Mais c'est hyper important, enfin, c'est normal en fait. Et effectivement, ça demande de réfléchir un petit peu et de se poser, et de poser les questions en fait, effectivement, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça soit simple. Parfois, c'est juste de poser la question en fait.
Tout à fait, et c'est vraiment ça tout le sens des missions handicap, et d'où l'importance que dans les entreprises et dans les écoles aussi, puisque Suzanne, toi, tu es référente handicap pour les élèves de l'école. Et du coup, moi, en tant que DRH à temps partagé, je suis donc le point d'entrée pour les aménagements de poste des salariés. C'est extrêmement important qu'on ait des gens formés pour pouvoir proposer, enfin, qui vont faire de la veille aussi, alors en lien aussi avec un organisme qui s'appelle l'AGFIP, avec les l'évolution de la loi aussi handicap. Aujourd'hui, c'est l'AGFIP qui vraiment finance tous les aménagements de postes. D'où l'importance que les salariés concernés puissent avoir une reconnaissance de la qualité de travailleurs en situation de handicap, parce que c'est sur cette base-là qu'ensuite il y a des prises en charge financières. Et on va être vraiment dans des situations, en fait, on est au-delà de l'égalité de traitement, on est sur l'équité. L'égalité, ce serait un traitement égalitaire, la même chose pour tout le monde. Or, l'équité, c'est vraiment donner ce dont chacun, chacune va avoir besoin, et là, par rapport à sa situation de handicap. C'est pour ça que c'est important à la fois de communiquer sur le fait qu'il y a des choses possibles, d'avoir des propositions à faire, d'avoir aussi, de connaître des prestataires aussi, et justement, en lien avec toutes les nouvelles technologies, de regarder un peu les outils un peu novateurs qui peuvent être mis en place. D'ailleurs, je me disais que ce serait intéressant, Hakim, peut-être que tu nous parles de choses qui ont été mises en place à Radio France, et donc aujourd'hui avec Véronique Vaughan qui pilote la mission handicap, mais des choses basées sur les nouvelles technologies qui ont pu te permettre, toi, d'avoir accès à certains logiciels, même avec ton handicap visuel.
Alors oui, la grande difficulté quand on ne voit pas, c'est qu'en fait, quand on va dans une entreprise, au-delà du pack office classique avec Word, Excel, qu'on a tous pour travailler ou chez soi, titre personnel, ce sont les logiciels d'entreprise qui sont tous différents les uns des autres et qui malheureusement ne sont pas adaptés à une personne déficiente visuelle. Mmh. Alors nous, on a un logiciel qui s'appelle JAWS, qu'on utilise, sauf que JAWS, il est surtout fait pour aller sur Internet ou Google ou sur le pack Office, donc Word, Excel, ça c'est fait pour. Mais malheureusement, ils ne sont pas faits pour les logiciels d'entreprise et donc il faut malheureusement les adapter. Mmh. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut faire ce qu'on appelle les scripts, qui sont en fait des raccourcis clavier, parce que nous, comme on ne voit pas, on ne peut pas utiliser la souris. Donc il faut tout recréer de manière à avoir des raccourcis clavier pour faire même des choses de base. Hein. Et ça demande beaucoup de travail parce qu'en fait, il faut faire du codage. Et donc moi, j'ai un ingénieur ergonome. Hein. Je vais me donner son nom pour lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui que je peux faire mon métier aujourd'hui, Alain Blouri. Qui aujourd'hui encore, Alain Blouri m'accompagne depuis mon premier jour en tant qu'apprenti à Radio France. Il est venu dès le départ parce que le logiciel qu'on utilise, il s'appelle Netia, le logiciel de montage. Et alors même s'il y avait quelques raccourcis clavier pour les voyants, pour les aider aussi, qui n'était pas tout fait pour les aveugles, mais pour les voyants, il a fallu en créer beaucoup d'autres, notamment un truc tout bête. Quand on rentre de reportage, on doit importer son son. Et ben moi, importer le son, je ne pouvais pas parce que ça se faisait qu'à la souris. Donc il a dû créer ce raccourci-là et aussi d'autres pour couper, pour monter. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire ça. Sauf qu'à chaque fois, un logiciel, il évolue, il y a tout le temps des mises à jour. Donc pour nous, même à chaque fois, c'est du stress. Donc Alain doit revenir à chaque fois pour me le remettre. Et en ce moment, j'ai un gros stress parce qu'on va changer complètement de logiciel, Radio France, et ce logiciel est beaucoup plus compliqué que l'ancien, donc je ne cache pas qu'en ce moment, j'appréhende beaucoup, même si Alain et Radio France travaillent beaucoup. C'est assez compliqué parce que la philosophie et l'ergonomie n'est pas du tout la même, donc on va essayer de voir comment on peut faire les choses, mais c'est vrai que pour une personne handicapée, l'évolution des logiciels, c'est toujours beaucoup de stress. Et idem pour le logiciel où j'ai les dépêches, là aussi, il a fallu l'adapter. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est du stress pour nous. Ils ne vont jamais assez, en fait.
Et en fait, ce qui est pour aller dans la lignée de ça, ce qui est très important aussi, c'est de savoir que, et c'est pour ça que c'est important pour nous, comme le disait aussi Suzanne, de connaître les besoins, en fait, des salariés. Et du coup, de connaître la situation, même s'il n'y a pas besoin d'aller dans le détail médical, mais de savoir qu'une personne a une situation de handicap, qu'elle puisse venir nous en parler, parce qu'il existe énormément de choses pour adapter les postes. Par exemple, pour des personnes qui ont des troubles 10, il y a des logiciels pour adapter la lecture sur ordinateur, par exemple par rapport à la dyslexie, des types de police, je sais Anne que tu travailles là-dessus aussi pour les supports de communication, et qui vont en fait faciliter la lecture des personnes qui ont ce type de problème. Et du coup, ça va les remettre en situation de moins perdre de temps, même s'ils ont droit aussi à un tiers temps en plus pour les examens.
Oui, mais c'est pareil, encore une fois, une pénibilité, une fatigue qu'on ne rajoute pas en fait.
Exactement.
Et c'est vrai que notamment, on en parle souvent avec Suzanne, on en parle aussi avec Pierre Caruzoré qui s'occupe des examens, d'avoir quelqu'un qui lit le sujet le jour de l'examen et de savoir que peut-être qu'on n'en aura pas eu besoin ou peut-être que ce tiers-temps on l'utilisera pas à 100%, mais de savoir qu'il y a un aménagement qui est fait, que le jour de l'examen où il y a un gros enjeu, il y a un stress, on est déjà assez sollicité mentalement comme ça, qu'on va pas se dire mince, si ça se trouve, je vais rater mon examen parce que dyslexique et que je vais mal comprendre la consigne, je sais le faire mais je vais mal comprendre la consigne, et qu'avec le stress en plus ça va rajouter le fait que les hors-sujet avec le stress on en a plein, le fait qu'en plus on ait un trouble 10 va accentuer potentiellement ce stress-là. Là au moins on part pas avec ce caillou dans la chaussure de départ, de se dire mince, si je lis mal la consigne, quelqu'un va me la lire, va s'assurer que j'ai bien comprise, et ça va du coup. Je vais partir, encore une fois, au même point de départ que les autres. Je vais pas, dès le départ, être freinée dans mon épreuve de pratique à l'atelier, par exemple. Et du coup, Suzanne, en tant que référente RQTH auprès des apprentis, comment on aménage, comment on reçoit les besoins des élèves? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un élève qui n'est peut-être pas encore venu se signaler auprès de toi pour qu'il puisse faire cette démarche?
Alors, déjà, soit on arrive à l'école, on a déjà une reconnaissance, ça fait un moment qu'on sait qu'on a des difficultés, qu'on a un handicap, et à ce moment-là, moi je reçois dès la rentrée l'élève pour connaître ses besoins et aussi ses difficultés pour essayer de pallier tous les problèmes et qu'il soit au même niveau que les élèves, que la formation soit équitable. Mais si vous ressentez que vous avez des difficultés, mais que vous ne pensez pas forcément que c'est un handicap ou que vous ne savez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir en parler. On est là aussi pour guider les élèves qui n'ont pas de reconnaissance dans les démarches, pour aider la formation. On n'est pas obligé d'avoir une reconnaissance pour avoir des aménagements dans la formation.
Oui, c'est vrai que c'est important de le préciser et on insiste peut-être un peu beaucoup là-dessus, mais je pense peut-être que c'est pas assez intégré. Mais il faut pas hésiter aussi à signaler qu'il y a des changements possibles dans la vie, en fait. Parce qu'il y a quand même une grosse partie des handicaps qui peuvent survenir au cours de la formation, au cours de la vie. Et c'est vrai qu'un élève qui, pendant l'année, se rend compte au bout de 6 mois que finalement ce qu'il pensait être simple ne l'est pas, ou il y a un accident à l'atelier qui fait que bah, finalement ma main gauche elle marche pas bien qu'avant, il faut effectivement le penser à le signaler parce que c'est pas une fatalité. On peut continuer à avancer et se faire accompagner pour que ça soit confortable.
On essaiera toujours de trouver des solutions pour vous aider.
C'est très important ce que tu viens de dire, Suzanne, parce qu'effectivement il peut y avoir des peurs de parler hein, d'une situation de handicap, par peur aussi de perdre un métier qu'on aime, qui nous passionne. Or effectivement, et c'est vraiment je pense hein, le message qu'on a envie aussi, enfin un des messages qu'on a envie de vraiment de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de choses possibles et qui vont vous permettre non seulement de continuer à exercer le métier que vous aimez, mais dans de bien meilleures conditions. Moi, j'ai accompagné hein, des personnes au sein de Radio France et d'autres entreprises qui, après un aménagement de poste, en fait, réalisaient un gain en fait, en termes d'énergie et une diminution de la fatigue pour laquelle ils avaient surcompensé pendant des années. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que découvrir finalement qu'on peut être moins épuisé, oui. C'est un tel soulagement. Et je voulais aussi préciser pour les dossiers, enfin les démarches pour être reconnues en situation de handicap. Donc on travaille donc en lien avec effectivement la référente handicap, nous les DRH, et en lien avec la médecine du travail. Ça, c'est très important aussi parce qu'évidemment, nous ne sommes pas compétents sur les aspects
médicaux, bien sûr, mais sur l'accompagnement administratif et la mise en place de petits dispositifs d'aide factuelle du dossier. Quoi.
Ouais, tout à fait. Voilà des choses moi, que j'ai pu observer et Hakim m'a beaucoup fait progresser en entreprise. Et par rapport à des choses que tu as pu partager avec nous, Suzanne, ce serait intéressant que tu nous dises à quel point c'est important. C'est vous qui êtes les meilleurs pédagogues et qui nous alertez en fait sur justement vos besoins et des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir tenir compte aussi de votre situation de handicap et ne pas créer de malentendus. Est-ce que tu veux nous parler, Suzanne, de ce que tu as partagé avec les élèves justement sur toi, tes besoins, pour pouvoir mieux communiquer avec eux ?
Bien sûr, alors depuis que je suis arrivée, on communique avec les élèves sur le fait que je suis malvoyante et que c'est contre ma volonté, mais je ne les reconnais pas quand ils viennent me parler et qu'il est important qu'ils se présentent tout bêtement parce que une personne d'1m75 brun qui a à peu près la même silhouette, ça peut être tous les élèves d'1m75 brun qui ont la même silhouette. Et c'est pas contre eux parce que leur dossier est... Et après, je les connais très bien, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est important. Et on cherche chaque année à améliorer la manière de leur présenter pour qu'ils intègrent. Parce que moi, mon handicap, il est invisible. Quand on me voit comme ça, on ne sait pas. Et on a tendance à oublier que je suis malvoyante.
Ouais, d'où l'importance vraiment d'en tenir compte. Et là, j'allais dire, c'est une question de bien vivre ensemble et de respect, de bien entendre ton besoin. Je me disais, ce serait intéressant, Hakim, que tu nous dises, toi, qu'est-ce que tu as peut-être à dire ou à rappeler régulièrement à tes interlocuteurs, de bonnes pratiques et de bonnes attitudes t'aident et qui t'aident au quotidien.
Alors, d'ailleurs, je vais rebondir sur l'acceptation du handicap. Vous avez entièrement raison. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que malheureusement, en fonction de l'âge auquel on devient handicapé, très souvent, les gens ont beaucoup de mal à accepter leur handicap et du coup sont dans une surcompensation qui les épuise. Moi, je vois par exemple autour de moi, quand j'étais au collège, même à l'institut, il y avait toujours entre guillemets deux clans, celui de ceux qui sont malvoyants, qui étaient entre guillemets un peu l'aristocratie parce qu'ils voyaient marcher sans canne, et le clan des aveugles qui étaient le style est handicapé, entre guillemets. Et souvent, ça pouvait créer des tensions, parce que même des fois des mots pas toujours sympathiques. Parce que les malvoyants avaient l'impression d'être entre guillemets des voyants, alors qu'en vérité, ils avaient la tête collée contre leur écran, et qu'ils avaient aussi des difficultés. Mais comme ils marchaient sans canne, ils se sentaient voyants. Et nous qui étions les non-voyants, entre guillemets, on était les moins autonomes, et du coup, nous, on était entre guillemets visuellement les vrais handicapés. Donc ça peut créer des tensions, et surtout, ça fatigue les gens. D'ailleurs, on parle des médecins du travail. Et c'est extrêmement aussi important, justement, d'avoir une reconnaissance, d'avoir une RQTH, une reconnaissance travailleur handicapé, parce que ça va aussi protéger l'étudiant ou le salarié, enfin, surtout le salarié, parce que c'est pour le salarié, parce que ça va lui donner accès à des financements, à des droits aussi, par rapport à sa hiérarchie, par rapport aussi, et surtout, à ses aménagements de poste. Et très souvent, les gens vont préférer rester des années travailler en se fatiguant sans parler de leur handicap, parce qu'ils ont peur, comme on dit tout à l'heure, ils ont peur d'être renvoyés, ils ont peur de ne pas pouvoir travailler, alors qu'en fait, c'est contre-productif. Et par rapport à l'aménagement des postes, je veux aussi dire que très souvent, c'est nous qui devons être moteurs. Donc quand je suis arrivé à Radio France, même quand j'étais apprenti, quand j'étais à l'IPJ, l'Institut pratique du journalisme, dès le départ, j'ai dit il me faut ci, il me faut ça. Parce que les gens, entre guillemets, c'est pas que leur métier, ils sont pas à notre place en fait. Vous savez, chaque handicap est différent et chaque personne non-voyante est différente. Il y en a qui ont besoin on a tous les mêmes besoins. Et là-dessus, c'est aussi important d'être moteur et de ne pas avoir de tabou. Et tout de suite dire moi je vois pas, il me faut du braille, il me faut une imprimante braille, il me faut aussi du vocal. Voilà, ou un écran plus grand, parce que comme je vois encore un tout petit peu, je peux aussi lire les gros caractères. Mm. Voilà, je parle aussi, c'est pas valable pour les handicaps moteurs ou psychologiques. Hein. Mais voilà, c'est important d'accepter aussi son handicap. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on perd son handicap en cours de vie, mais c'est déjà le fondamental, parce que si vous n'acceptez pas votre handicap, après, même dans la vie, vous avez du mal à avancer.
Merci beaucoup, Hakim. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses... Parce qu'en fait, ce que tu nous dis, c'est que toi, finalement, les choses sont visibles. Ton handicap, il est visible, quelque part. Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des choses que tu as à rappeler à tes interlocuteurs sur tes besoins, dans le travail, par exemple ?
Alors, il est visible, mais alors, si vous me permettez, ouais. Il est parfois invisible.
Ouais.
Parce que justement, à force d'être devenu, entre guillemets, trop autonome, mes managers, mes collègues oublient que je ne vois pas.
Mmh.
En fait, bon, d'un côté, tant mieux, parce que c'est aussi une marque de reconnaissance. Ça veut dire que, voilà, comme je venais en reportage, ils vont dire, bah non, toi, Kim, tu vois pas, tu restes ici, quoi.
Mmh.
Ce qui pourrait être le cas. Hein. Donc, mais après, c'est vrai que des fois, je le rappelle gentiment, j'ai écouté, voilà, des fois, c'est parce qu'on est un peu plus fatigué, tout simplement.
Oui.
Et voilà, bon, je suis un peu fatigué, donc ça m'arrangeait de faire le sujet, mais un peu autrement, quoi. Mmh. Ou de le faire la semaine prochaine, par exemple.
Okay.
Surtout quand c'est pour des sujets qui sont non datés, entre guillemets. Hein. Mmh. Quand c'est un sujet, bien sûr, que faire le jour, je le fais. Mais c'est important aussi d'être transparent avec sa hiérarchie, parce que, bah, des fois, on peut être un peu fatigué, un peu moins bien. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la surcompensation, ça nous arrive. Et être transparent, parce que nos chefs ne savent pas, c'est pas dans notre corps, c'est dans notre peau. Donc c'est aussi important de le dire. Par exemple, quand il y avait les grandes manifestations sur les gilets jaunes, bon, bah, j'écoutais mes chefs, moi, c'est pas que j'aime pas aller sur le terrain, mais là, c'est un peu compliqué. Bah. Et, à moi, c'est à l'époque, il y avait beaucoup d'animosité contre les journalistes, beaucoup de gaz lacrymogène, de bagarres, d'émeutes. Donc voilà, il faut aussi savoir en connaître ses limites, même si c'est dur, hein, des fois. Pour moi, c'est aussi pas un échec, mais j'aime pas dire non, en fait.
Oui.
Mais je sais que des fois, dans des situations extrêmes, et mes chefs en sont bien conscients, en ce moment, bon, j'irai pas malheureusement couvrir le conflit israélo-palestinien, parce que des fois, quand c'est la sécurité qui est en jeu, faut aussi savoir dire non, même si de jour en jour, je pousse mes limites. Hein. Mm. Ça peut m'empêcher de partir en Iran ou à la frontière syrienne en reportage. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas, moi, je m'efforce à le faire. Voilà,
puis il y a aussi parfois des temporalités, effectivement. C'est pas parce qu'on a dit non une fois qu'on va dire non systématiquement et qu'il faut pas reproposer, parce qu'effectivement, il y a des périodes où le contexte fait que, ou peut-être que là, j'ai enchaîné beaucoup de tâches qui étaient fatigantes, donc j'ai moins d'énergie, je me sens moins de relever ce défi-là aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 semaines, je serai à nouveau en capacité de me dire « je repousse ma limite aujourd'hui ». Et c'est pas parce que aussi on a surcompensé pendant des années, parce que j'ai l'impression qu'on demande quand même beaucoup ça de manière générale. Dans le monde du travail, c'est quand même quelque chose qu'on ressent, hein, de manière générale, mais quand on a un handicap, j'ai l'impression, dans les médias, il y a toujours le portrait de la personne qui est handicapée mais qui a fait le truc incroyable.
Mmh.
Et que du coup, on est un peu obligé de... oui, j'ai pas de bras, pas de jambes, mais j'ai traversé la Manche à la nage. Oui, bah, peut-être qu'on peut juste faire une journée normale aussi. Et c'est vrai que cette surcompensation, elle est épuisante.
Alors justement, ça tombe bien que vous parliez de ça. Parce que même quand je suis arrivé à Radio France, je me suis battu. Parce que voilà, moi, je m'appelle Hakim Kasmi, donc je suis issu de l'immigration. Je suis né en France, mais d'origine algérienne. Et c'est vrai que dès le départ, quand je suis arrivé à Radio France en tant qu'apprenti, j'ai tout de suite dit, et je me suis toujours mis comme entre guillemets principe, de ne pas devenir le monsieur handicapé ou le monsieur diversité. À savoir faire que des reportages sur la banlieue ou que des reportages sur l'handicapé. Parce que vous savez, au début, c'est la facilité. Hein. Au début, quand on arrive, ah bah tiens, il voit pas, on va pas le stresser, on va l'envoyer faire les sujets sur le handicap. Et puis il connaît. Et je sais qu'aujourd'hui encore, d'ailleurs, ma plus grande satisfaction, c'est quand par hasard je rencontre des auditeurs qui me disent, encore récemment, je raconte une anecdote extraordinaire, c'est pas du tout pour mettre en avant, mais ça m'a énormément touché. Je suis parti en reportage à Toulouse, faire un reportage sur le bac professionnel. Donc je pars, comme c'était en France, voilà, je suis parti tout seul, j'ai pris ma canne, mon train, comme d'habitude, et je descends du train. Le monsieur de la SNCF qui est en charge d'accompagner les personnes handicapées vient me chercher dans le train, et moi, il est sorti de la gare, et je lui dis juste, pouvez-vous m'indiquer où se trouve mon lanterne, parce qu'il était en face de la gare. Il dit oui, c'est devant, c'est à gauche. Et d'un seul coup, au moment où je parle à l'agent de la SNCF, un monsieur vient me voir et me dit, bonjour monsieur, vous êtes Hakim Kasmi, je vous écoute depuis des années. Et je lui dis, monsieur, mais comment vous m'avez reconnu? On est sur l'esplanade d'une gare à Toulouse, à la gare Matabiau, et des milliers de personnes, il y a du bruit, des camions, des voitures, des sirènes. J'ai juste dit 2 mots et vous m'avez reconnu. Et il me dit, bah oui, il fait, je vous ai reconnu parce que vous avez une voix particulière. Et comme en plus, je ne savais pas que vous étiez aveugle, je me suis même parti sur Internet pour vérifier que c'était bien vous et que je ne me trompais pas, justement.
Ah, il a reconnu.
Génial.
Pour être sûr que c'était vous et pas une personne, en fait. Et donc, je marchais derrière vous sur le quai de la gare, et j'ai été sur Google, et c'est là que j'ai vu que vous étiez non-voyant, parce que je vous écoute depuis des années, et je n'ai jamais su que vous étiez non-voyant, donc encore bravo, et voilà. Et ça me touche, parce que je me dis, voilà, c'est-à-dire que quand je fais mon travail, bah, je le fais comme tout le monde, et que les gens ne font pas de distinction. Et ça, pour moi, c'est le plus beau compliment, c'est d'être un journaliste à part entière. Bah, dans ma vie, j'ai pas voulu être le journaliste spécialiste immigration, ou handicap, ou parce que je suis handicapé, on met à la radio, non. Et je m'y suis toujours attaché, et j'ai beaucoup travaillé pour ça, parce que ce qui est le plus dur pour nous quand on ne voit pas, c'est la lecture en braille. Parce qu'à la radio, il faut être fluide.
Oui.
Et quand vous lisez avec les mains, vous n'avez pas la même fluidité qu'avec les yeux, parce qu'avec les yeux, on a une vision panoramique, en fait, des choses. Donc on voit le mot qui arrive, on voit la ligne qui arrive, et en fonction, on place sa voix. Et pour nous qui ne voyons pas, ça demande beaucoup d'entraînement. Moi, quand j'étais à l'IPJ, j'ai dû beaucoup m'entraîner à l'école pour être le plus fluide possible. Ça passe aussi par l'écriture, en écrivant plus court. Et puis, si on fait des phrases longues, bah, on s'en met les pinceaux, et encore plus quand on est fatigué. Oui. Moi, je vois, quand je suis fatigué, j'ai un peu savonné, et ça m'énerve d'ailleurs. Et il faut aussi beaucoup commencer en apprenant par cœur. Moi, avant de partir à l'antenne, à chaque fois, je m'isole 5-10 minutes, et j'apprends par cœur mon texte. Comme ça, du coup, quand je le lis, à la fois, je le suis avec les mains, mais à la fois, je l'ai aussi en tête. Oui. Et comme ça, j'ai un ton beaucoup plus naturel. Et c'est vrai que des fois.
Ça marche.
Mais ça demande beaucoup d'efforts, et c'est aussi pour ça qu'à la fin de la journée.
Voilà, une fatigue forte.
Et c'est aussi pour ça, tout bêtement, que je travaille à 80%. Mm. Voilà, dès le départ, la DRH de Radio France m'a dit, écoute, Hakim, on sait bien qu'en plus, dans notre métier, on fait des grosses semaines, mais on ne fait pas les 35 heures, malheureusement. Mais du coup, c'est aussi pour ça que, voilà, sachant que même en 4 jours, je fais plus de 50 heures, c'est aussi pour ça que je suis à 80%. Mm. Et je le vois, des fois, quand il y a des grosses actus chaudes, je viens travailler le vendredi. Bah, je vois bien, quand je travaille le vendredi, le week-end, c'est plus compliqué pour récupérer. Mm. On parlait beaucoup de l'aménagement des postes et ça passe aussi pour ça. Voilà, faut pas hésiter à faire les 80%, faut pas s'épuiser pour travailler, quoi, même si on est passionné.
Et du coup, Suzanne, on a quand même de manière un peu récurrente le problème des élèves qui, pendant l'année, oublient de se présenter. Le réflexe à la rentrée est assez bien appliqué. Avec l'habitude, ils oublient. On est obligé de rappeler régulièrement et ça peut être source de tension, de friction, de tristesse aussi, parce que c'est désagréable, c'est blessant en fait quand un élève part du principe qu'il n'a pas à faire un mini-effort, quand même te complique vraiment la vie. Est-ce que tu penses que tu es un peu victime de tes compétences? Parce que comme tu fais bien ton travail, ils n'arrivent pas à associer ça au fait que tu as un handicap visuel. Est-ce que tu penses que c'est un peu le fait que tu sois très performante efface finalement la limite qu'ils imaginent?
Alors, c'est un peu des deux, en fait, quand au bout d'un moment, on oublie de se présenter. À la fois, je suis un peu flattée, parce que ça veut dire que je donne bien le change. Mmh. Et donc, je suis contente, parce que je compense bien mon handicap, je suis autonome, ça se voit pas, et c'est super. Et à la fois, c'est vexant, parce qu'on a beau leur dire, et c'est pas intégré, et ça me demande à chaque fois un effort supplémentaire. Ils me parlent. Je dois retenir tout ce qu'ils m'ont dit, pour enfin, quand ils ont fini de m'expliquer la situation, leur dire... Mais en fait, t'es qui ? Mais je dois me souvenir de tout ce qu'ils m'ont dit, parce que je peux pas les faire répéter à nouveau. Donc je dois me souvenir de toutes les informations, puis ensuite rattacher un dossier qui a déjà des informations qui sont importantes à savoir, et pour lesquelles j'aurais pas forcément eu la même réponse si j'avais su dès le départ de qui il s'agissait. Donc c'est un peu difficile parfois.
Et je crois que vous avez imaginé du coup de mettre en place quelque chose, Suzanne, pour faciliter justement le fait que les élèves se rappellent par rapport à ta situation de handicap. Tu partageais le fait que là, vous aviez réfléchi à une signalétique...
C'était une surprise, Sophie.
Bon, alors on va couper ça.
C'était une surprise, mais c'est pas grave.
Ça fait un moment
qu'avec Suzanne, on réfléchit justement à une signalétique qui soit, comme on a un accueil qui est vitré et qu'on voudrait pas obstruer l'accueil complètement et enlever la luminosité, en fait, de l'accueil, et qu'on voulait pas une signalétique moche, entre guillemets, et aussi, comme c'est vitré, que ça soit pour surtout les personnes qui sont extérieures à l'établissement, que ça soit accrocheur quand même. On est en train de faire travailler en ce moment l'atelier de dorure et d'encadrement avec Bento pour qu'elle fasse une signalétique avec les métiers de l'école, avec un cadre et de la dorure, pour que la signalétique soit adaptée et au message, mais aussi aux matériaux, et que ce soit un objet qui soit au-delà d'utile, un objet joli qui représente ton poste.
J'ai l'impression d'avoir révélé à quelqu'un que le Père Noël n'existait pas. Là, je me sens, voilà.
C'est pas grave.
Parce que là, c'est une bonne surprise. Non, mais voilà, on va pas en dire plus au-delà, ni rien montrer, mais... Moi, il y a quelque chose vraiment qui me frappe beaucoup depuis toutes ces années où, à la fois, moi, je suis engagée dans des associations, et notamment, j'ai été très longtemps engagée dans l'association Lire dans le Noir, qui avait été créée en hommage à Julien Prunet, un journaliste de France Info, que tu as connu, Hakim, non ? Vous vous êtes succédé ?
On s'est connu un tout petit peu, via le sport, en fait. Comme, en fait, j'étais champion de France au Cécile Foot et aussi en équipe de France du Cécile Foot. On s'est rencontrés dans ce cadre-là. Et ceci, Julien Prunet, je lui dois beaucoup, hein, parce que c'est grâce à lui aussi qu'aujourd'hui j'ai pu faire ma place à Radio France, parce qu'il était le premier, en fait. Vous savez, dans la vie, c'est toujours dur d'être le premier, parce qu'on est sous les plâtres. Mmh. Voilà. Et c'est parce que justement, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si mes premiers managers ont été ceux qu'avait eu Julien France Info.
C'est ça, ouais.
Et du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma carrière. Mmh. Parce que, voilà, mais...
Julien, malheureusement, nous a quittés il y a plusieurs années de ça, mais a été effectivement le premier journaliste non-voyant, embauché à la radio et à... C'est un petit peu lui, enfin c'est même lui qui a fait en sorte que les postes soient aménagés. C'est pour ça que tu disais, voilà, il avait ouvert les portes aussi pour pouvoir faire les aménagements de postes requis.
C'est celui qui a pris sur lui de montrer que c'était possible.
Exactement. Et y compris, il a fait bouger les écoles de journalisme sur l'aménagement des épreuves aussi pour des étudiants en situation de handicap visuel. Je voulais, par rapport à tout ça, en fait, moi, ce qui me marque depuis toutes ces années, c'est qu'en fait, quand on se préoccupe du handicap en entreprise, quand on met en place des aménagements, en réalité, non seulement on va s'occuper de la situation individuelle de chaque personne, mais en réalité on œuvre pour le collectif. Ça, c'est très très intéressant de voir ça, parce que moi j'ai des souvenirs, Hakim, de choses sur lesquelles tu nous as alertés. Par exemple, tu t'étais blessé sur quelque chose qui dépassait, en fait un objet qui dépassait sur un chemin, etc. Alors oui, les personnes qui voient pouvaient repérer cet endroit, mais en réalité, d'autres personnes auraient pu se blesser aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand on a à cœur de regarder aussi certains aménagements, en réalité, sont des choses qui, à un moment donné, peuvent aussi profiter à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est un message fort aussi en termes de tenir compte de la spécificité d'une personne en situation de handicap. En réalité, ça va être aussi avoir ce prisme, et en tant que manager, c'est très important aussi, de tenir compte de la singularité et de la diversité de chacun et chacune. Parce qu'en réalité, on a tous une diversité. Et je trouve qu'au-delà, il y a vraiment des choses spécifiques à mettre en place par rapport aux situations de handicap. Mais il y a, pour moi, une démarche à avoir de façon générale de prendre en compte chacun et chacune dans ce qu'il a de spécifique.
Et c'est vrai que le fait d'être ouvert à la diversité, le fait de, au-delà d'être ouvert, devrait réellement et concrètement pour que la diversité elle soit incarnée et possible, parce que c'est une belle chose de dire qu'on est ouvert d'esprit, mais il faut aussi le concrétiser après. C'est, je pense, la politesse élémentaire qu'on est censé avoir, c'est malgré tout. On est très fiers de le faire, hein, mais c'est quand même normalement la moindre des choses. Et c'est surtout, je pense, les gens ont un peu perdu de vue de la possibilité que, en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Et ça, on en a beaucoup parlé quand on a préparé cette semaine. Le handicap survient quand même régulièrement au cours de la vie. Il n'est pas forcément permanent. Et il touche tout le monde. On est tous concernés. On est toutes potentiellement à devoir aménager sa façon de vivre un jour. Et effectivement, ces aménagements qu'on ne fait pas, ces efforts qu'on ne fait pas de se présenter, dire bonjour, de tenir la porte, de se soucier de est-ce que c'est accessible, on n'aimerait pas le subir.
Oui.
Et de se mettre 30 secondes dans les chaussures de quelqu'un d'autre, c'est quand même très important, et on oublie de le faire parce que c'est fatigant, parce qu'on n'y pense pas, parce que ça demande un effort intellectuel et un effort affectif aussi, hein, parfois, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'imaginer, parce qu'on a peur peut-être aussi de s'imaginer dans ces chaussures-là. Mais il faut le faire, cet effort-là. Et ça marche pour tous les freins, entre guillemets, sur le marché du travail, le handicap, le fait d'être une femme, le fait d'être issue de l'immigration, d'avoir un nom qui ne plaît pas aux recruteurs. Se mettre dans les chaussures un petit peu des autres, ça permet de se dire, là, peut-être que j'agis pas comme il faut. Et c'est pas agréable de se dire qu'on a été pas une bonne personne, mais c'est important de se le dire en disant, là, j'aurais pu faire un effort, je l'ai pas fait, je recommencerai pas, parce que si on reconnaît pas qu'on a fait une erreur, on progresse pas. Donc de juste se dire, balayer, mettre sous le tapis le fait qu'on n'ait pas été inclusif pendant des années, dans nos métiers particulièrement, en métier d'art, être une femme, accepter des personnes issues d'immigration, accepter des personnes handicapées, c'est encore un long chemin et un long combat, mais on reconnaît qu'on a été nul sur ces sujets-là et on progresse. Et je pense que c'est en reconnaissant qu'on n'a pas été très performant dans ces sujets-là, en faisant la démarche de dire maintenant on change, on fait des efforts, on accepte d'avoir été mauvais, on progresse. Je pense que c'est comme ça qu'on ouvre la porte à un monde bien plus tolérant, bien plus bienveillant.
Et si vous permettez justement, et voilà, je voulais aussi ajouter quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'aujourd'hui aussi, alors tout d'abord, par rapport à l'acceptation, on le voit même dans les études, hein, le handicap qui fait le plus peur aujourd'hui, c'est le handicap visuel. Et du coup, ça peut aussi créer des freins ou des relations compliquées même dans le monde du travail. Hein. Moi, j'étais surpris. Moi, je pensais que ce qui effrayait les gens, c'était d'être handicapé moteur. Et non, même des handicapés moteurs que je connais, qui sont très bons amis, me l'ont dit. Ils m'ont dit, ah non, nous, Hakim, on préfère mieux une fois la situation que la tienne. Hein. Parce que pour nous, le pire, c'est de ne pas avoir les yeux. Donc déjà, ça peut être aussi des fois un frein dans le monde du travail. Et aussi dire que malheureusement, aujourd'hui, même si, bon, moi, je veux pas être l'arbre qui cache la forêt, entre guillemets, moi, j'ai la chance d'être à Radio France, voilà, une entreprise extraordinaire quand on est journaliste. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans le monde des médias, il n'y a pas de diversité. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, que ce soit entre guillemets diversité sociale ou diversité en termes de handicap ou en termes d'origine, aujourd'hui, moi je fais un métier, tout à l'heure vous parliez de l'âme, c'est pareil, moi je fais un métier où les gens sont tous d'origine, en général les trois quarts, hein, CSP+, voire plus, on fait des prépas, Sciences Po, et tant mieux pour eux, c'est pas du tout une critique, hein, mais je regarde qu'aujourd'hui, voilà, il y a pas beaucoup de gens, parce que ce sont des études qui sont extrêmement sélectives, et qui du coup demandent des moyens, aussi bien financiers que culturels, vous voyez, on peut pas forcément le faire, et du coup il y a ce qu'on appelle ce phénomène d'auto-censure. Et c'est aussi pour ça que voilà, j'espère qu'à l'avenir, qu'on aura plus de handicapés à la télévision, à la radio, plus de gens issus de la diversité aussi. Parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à le vivre ensemble, ça passe par là aussi en fait. Ça passe par la mixité à tous les niveaux.
Et c'est ça qui est bien quand on intègre là de plus en plus des élèves en situation de handicap dans les classes, quand on fait des aménagements. Parfois ça demande le soutien des camarades et une certaine solidarité. Je pense notamment à un truc tout bête, mais photocopier les notes en fin de journée pour certains élèves. Il faut qu'il y ait un camarade qui accepte qu'on photocopie ses notes et qui prenne le soin de bien noter tout ce qui a été dit par le professeur. Et c'est vrai que ça crée une sensibilité pour les élèves qui n'auraient pas forcément été sensibilisés à ça si on n'avait pas d'élèves en situation de handicap.
Et moi, je l'ai vécu, hein, pardon, mais je l'ai vécu à l'école. Un jour, je vous disais, j'avais une prof, bon, on ne dira pas qui, mais j'avais en plus, c'est ma prof principale quand j'étais au lycée. Parce que là, pour tout vous dire, j'ai même fait un bac pro, donc j'ai un parcours assez atypique, enfin un bac technologique et un VEP. Parce que quand j'étais à l'Institut des jeunes aveugles, mes profs m'ont toujours dit que je ne ferais rien de ma vie. Et du coup, voilà, j'ai dit, écoutez, laissez-moi au moins partir avoir un diplôme. Même ça, ils n'en voulaient pas. Évidemment, comme tu es aveugle, à l'Institut, on n'a pas le droit de mettre en inclusion les enfants en études professionnelles technologiques, donc tu vas faire en parleur de chaise ou standardiste. On n'aurait pas du tout de mépris face à ces professions-là. Mais bon, je me suis même battu à l'époque, quand j'étais à l'Institut, pour pouvoir, à ce que le ministère accepte qu'un enfant non-voyant, malvoyant, puisse lui aussi faire un bac pro en bac techno. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un parcours assez typique. Hein. Aujourd'hui à Radio France, même mes collègues ne le savent même pas pour tout vous dire. Enfin, comme j'ai fait une grande école et puis la fac, on pourrait croire que. Mais en fait, voilà, j'ai eu ce parcours un peu atypique qui fait que voilà, j'étais conscient de ça. Et pour vous dire que l'une de mes profs principales à l'époque m'avait dit « Non, Hakim, aujourd'hui, tu n'auras pas le droit d'avoir ton auxiliaire. Enfin, » Maintenant, on dit l'AVS. Ce sont ces personnes qui nous accompagnent quand on est handicapé, justement, pour faire nos contrôles, notamment, ou en cours, notamment pour les mathématiques, ou la géographie, ou les tableaux, ou les cartes. Et un jour, elle m'a interdit. Elle m'a dit non, Hakim, comme à l'époque j'étais en BEP compta, elle m'a dit maintenant, aujourd'hui, tu n'auras pas le droit d'avoir ton auxiliaire de vie, tu te débrouilles. Si le jeune aveugle m'a dit, il y a tout en braille, il peut le faire. Ce qui est interdit, parce que avoir un AVS, avoir un auxiliaire pour nous aider, c'est la loi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et elle avait refusé, forcément, comme c'est en comptabilité, vous imaginez, c'est que les tableaux. Quand on est aveugle, et en plus, même en braille, c'est compliqué les tableaux. Donc, oui, j'ai eu 4 sur 20, et après, elle m'a dit, tu vois, Kim, j'avais raison, je t'ai dit que t'es pas ta place ici. Or, voilà, oui, c'est pas que j'ai pas ma place ici, c'est que j'ai peu les outils pour le faire, en fait. Et après, ça s'est mal passé pendant un an, j'ai même failli arrêter la formation. Donc après, je me souviens beaucoup de la solidarité de mes camarades à l'époque, qui avaient été extrêmement solidaires, et qui un jour ont dit, au début du contrôle, « Madame, nous c'est simple, si elle pleure à son aide, on ne fait pas le contrôle. »
Ah, c'est bien ça.
Ça m'avait beaucoup touché à l'époque.
C'est le cercle de poètes disparu.
Et après, ça a créé une mini-émeute, entre guillemets. « Non mais comment ça, c'est bon, ça ne vous regarde pas, laissez-le faire. » Non, non, ils ne faisaient pas le droit, il a le droit d'avoir de l'aide. Et voilà, et ensuite, après, tout s'est réglé, parce que j'ai changé de prof, j'ai changé de classe. Je suis parti à semaine de BEP avec une autre prof qui était extraordinaire, et puis j'ai même eu 14 à mon examen, alors qu'on m'avait dit que j'étais un bon à rien. Et ensuite, c'est même comme ça que j'ai pu aller en bac technologique, parce que pour avoir le bac technologique, quand on vient de BEP, il faut aussi avoir des très bonnes notes. On va pas automatiquement en bac technologique. Et après, j'ai changé d'établissement. Je suis parti dans un lycée technique, dans le 15e arrondissement, et là j'ai rencontré des profs extraordinaires, notamment un qui était mon prof de commerce. Et c'est en grande partie grâce à lui que je suis journaliste, parce que lui avait fait Sciences Po, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, et il m'a beaucoup appris la rigueur. Voilà, la rigueur, il savait que j'avais du potentiel, et du coup il était même encore plus dur avec moi qu'avec les autres, malgré le handicap. Il avait cette phrase, si vous me permettez, qui m'a toujours accompagné toute ma vie, cette maxime, Hakim, ne cherchez pas d'excuses. Et cette phrase, je me la répète tous les jours, aujourd'hui encore, ne cherchez pas d'excuses. Et je me souviens, pour avoir une autre anecdote, comme j'étais à l'époque joueur de l'équipe de France de foot, j'étais parti 10 jours faire la Coupe du Monde au Brésil, et quand je suis revenu, direct, il m'a fait faire mon contrôle que je n'ai pas pu faire la semaine d'avant. Il m'a dit qui le sport c'est votre problème, mais moi j'ai le bac, je suis là pour vous préparer pour le bac, donc demain on va faire votre contrôle. Même si je suis fatigué, le décalage horaire, je vais à la Coupe du Monde et tout. Non. Il m'a dit qu'il faut un examen comme tout le monde. Il avait raison. Et même après, même pour les oraux, il m'a beaucoup aidé. C'est aussi en grande partie grâce à lui que j'ai pu avoir mon oral à l'IPJ, parce qu'il m'a vraiment bien préparé. Voilà, lui-même a fait Sciences Po Paris, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Il avait aussi les codes aussi. Oui. Donc il m'a vraiment beaucoup aidé. Alors Sophie pourrait aussi en parler, parce que Sophie elle-même a fait Sciences Po Bordeaux, si je ne me trompe pas. Donc elle sait combien c'est important d'avoir le background culturel et les codes lorsque l'on passe les grandes écoles.
Et ce qui est très intéressant aussi dans ce que tu décris, alors moi je trouve, et c'est pour ça qu'on est très. Enfin, je trouve ça très important qu'on puisse avoir. Et entendre Suzanne et Hakim aujourd'hui autour de ces micros, parce que c'est important qu'on ait des personnes, moi que je vais appeler des personnes inspirantes et des rôles modèles en fait, qui justement montrent la voie et montrent tout ce qui est possible de faire et de construire professionnellement, scolairement. Mais ça montre aussi comment les personnes et les rencontres vont être déterminantes, mais j'allais dire comme dans la vie en général, mais comment ça va être très important et comment c'est essentiel dès l'école, tout au long des études et dans la vie professionnelle, de continuer à lutter contre les stéréotypes, les préjugés. Parce que cette professeure dont tu parlais, Hakim, elle avait un espèce de stéréotype, de préjugés, et elle était dans son biais cognitif, le biais de confirmation, c'est-à-dire « je vais tout faire ». Pour vous montrer, vous confirmer que non.
Que ce que je pense est vrai.
Voilà, exactement. Et c'est quand même édifiant. Enfin,
d'ailleurs, elle a cette phrase, pardon, mais elle dit toujours « il ne peut pas ». Voilà, même lorsque l'on a montré mes enseignants de Linja, dès le départ, où je suis arrivé, « il ne peut pas, comment il va faire ?» Parce qu'en comptabilité, il y a plein d'annexes, il y a plein de tableaux. Donc dès le départ, en fait, dès la rentrée, elle avait décidé que je ne pourrais pas, en fait. Voilà. Et donc, elle s'est battue pour que je ne puisse pas.
Mais oui, c'est ça. Et on voit comment ces espèces de pensées, d'idées reçues. Donc vraiment, c'est ultra important, tout le temps, d'avoir conscience, on en a tous des stéréotypes et des préjugés qu'on a, mais de travailler dessus pour les déjouer. Et
je pense que ce qu'on peut se souhaiter de mieux, entre guillemets, en tant qu'être humain et en tant que, surtout, Suzanne et nous, dans une école, en fait, oui. où on a ce rôle de passeur un petit peu de connaissances et de cette envie vraiment partagée par toute l'équipe d'être un endroit de bienveillance. Moi, ce que je peux souhaiter à n'importe quel prof ou une collègue aujourd'hui, c'est d'être ce prof inspirant. Parce que si on arrive à être pour un élève, ne serait-ce qu'un élève hein, sur 20 ans, le prof dont on se souviendra dans 15 ans, c'est gagné en fait. Donc je pense que c'est notre job de faire ça, ce travail sur nous, qui n'est pas tous les jours évident, hein, qui est tous les jours pas forcément fait avec la même énergie, on va dire, mais en tout cas d'être cette personne qui va donner à quelqu'un les outils pour développer toutes ses compétences et toutes ses envies.
Et avoir un mentor. Moi, aujourd'hui, pour tout vous dire, je me déplace vraiment beaucoup dans les écoles parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors, des gens au-dessus de moi, qui avaient un an ou deux de plus que moi, qui ont réussi à faire des études, qui ont réussi à travailler. Et si j'ai pas rencontré ces gens-là, bah, moi, j'aurais eu peur. Voilà, je serais resté dans mon coin, j'aurais peut-être fait autre chose. Et quand on a un handicap, quel qu'il soit, avoir des mentors, c'est extrêmement important parce qu'un voyant, il a beau vous dire que tu peux le faire. Non, on va pas l'écouter de la même manière. Un aveugle ou un handicapé moteur, lui, ce qu'il veut voir, c'est quelqu'un comme lui, quelqu'un qui a la même situation que lui, qui a pu le faire. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est pour ça que je me bats tous les jours et que dans la maison du possible et de mon temps, je vais voir des gens, et quel que soit leur métier. Voilà, moi je suis journaliste, mais je veux pas être entre guillemets un handicapé de luxe, un handicapé premium. C'est pas parce qu'on n'a pas un métier de cadre qu'on n'a pas réussi sa vie. Et quel que soit son métier, il y a pas longtemps, j'étais parti dans un centre spécialisé justement, pour voir des élèves non-voyants qui se préparaient à faire du télémarketing. Et qui m'ont dit au début, certainement même dit ouvertement, hein. Bon, au début, quand on est venu vous voir, on s'est dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire là, c'est pas important, voilà. Et au contraire, la prof m'a fait venir exprès pour que je puisse les motiver. Et à la fin, ils m'ont dit honnêtement, bah, vous savez, au début, on n'était pas forcément motivé pour vous voir, on se disait, oh, qu'est-ce que ça nous apportait. Et finalement, bah, à la fin, vous avez redonné l'énergie en fait. Parce qu'ils m'ont dit, bah, non, on avait peur, on ne sait pas qu'est-ce qu'on allait devenir, on a perdu du handicap. Et grâce à vous, on s'est dit, c'est possible en fait.
C'est ça.
Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des mentors dans la vie.
Moi, en terminale, quand j'ai appris que j'allais finir aveugle, j'ai cherché métier quand on est aveugle sur Internet. C'est tout bête, mais je cherchais du coup ce que j'allais devenir. Et les seuls métiers que j'ai trouvés, c'est standardiste ou kiné. Je voulais être ni l'un ni l'autre. Donc, c'est très bête. Et quand, en plus, j'ai dit que je voulais faire opticienne et des licences et masters de sciences de la vision, juste pour comprendre ce que j'avais et ce qui allait m'arriver, on m'a tout dit, bah, c'est quand même un comble pour quelqu'un qui ne voit pas de faire des études de sciences de la vision. Oui, mais j'en ai eu besoin. Et il faut toujours, un premier journaliste non-voyant, une première conseillère d'éducation, pourquoi pas. Enfin, voilà, il en faut toujours un premier pour lancer les autres et dire que bah, oui, c'est possible.
Et avoir des profs, moi j'ai eu la chance aussi à l'Institut d'avoir un prof d'histoire qui m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup accompagné, un de mes profs de sport qui était aussi mon prof référent, c'est lui qui faisait le lien entre, à l'époque, avec mon prof de PEP qui ça se passait mal, et l'Institut. Parce que voilà, dans ces moments de doute, vous savez, c'est très dur. Vous avez à peine 16-17 ans, vous devez gérer le handicap, la méchanceté de vos enseignants. C'est dur. Et en plus, on vous renvoie votre handicap en pleine figure. Je leur rends un grand hommage, je vais me donner leur nom, Rémi Roussel, Philippe Calbeau et M. Cazin de Jean, lui qui était mon professeur de commerce quand j'étais ensuite à Louis Armand, qui ont pour moi été des personnes extraordinaires et qui ont été là dans les moments durs. Aujourd'hui encore, je leur dois beaucoup. Alors ils sont fiers aujourd'hui parce qu'ils m'entendent à la radio, c'est vrai, mais c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Et moi, pour moi, la reconnaissance est très importante. Il faut toujours savoir qui on est et d'où on vient.
Je pense que sur ces belles paroles, on peut conclure pour ce podcast. C'était très intéressant, c'était très enrichissant. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt. La Bonne Graine, un podcast entièrement réalisé à la main.